Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion du colloque « Éthique des médias, de l'information au marché » tenu à Montréal en avril 2009. Welcome to the audio podcast of the Media Ethics from Information to Markets Conference that took place in Montreal in April 2009.
Bonjour, on va débuter la première séance. Donc, je suis Pierre-Yves Néron de University of Toronto. Donc, je vais présider cette première séance. Il me fait plaisir de vous accueillir à cette première séance intitulée « L'éthique des médias, un point de départ théorique ». So, it will be quite simple. Each participant will speak for about 25 minutes, and I'm pretty sure that we will find a way to understand each other. So, hopefully, il y aura ensuite une période de questions de 15 minutes. Il me fait extrêmement plaisir d'introduire, pour commencer notre événement, commencer notre colloque, Anne-Marie Gingras, qui est professeure titulaire au département de sciences politiques de l'Université Laval. Elle est l'auteur, entre autres, de « Médias et démocratie, le grand malentendu » qui vient d'être réédité en 2006. Elle a dirigé la communication politique « État des savoirs, enjeux et perspectives » paru aux presses de l'Université du Québec, « La construction de la légitimité dans l'espace public » en 2008, « Domaine de démocratie et réseau de communication » en 1999, ainsi que des éditions spéciales de la revue « Politique et société ». Ses champs de recherche incluent les politiques en matière de communication, les représentations sociales de la démocratie, l'opinion publique et les sondages, les technologies médiatiques et les droits de la personne.
Merci. Alors, je voudrais tout d'abord remercier le Centre de m'avoir invité. Ça me fait très plaisir d'être ici aujourd'hui. Alors, ma présentation porte évidemment sur l'éthique des médias en démocratie et la régulation politique. Lorsque ce colloque a été organisé et planifié, il était loin, était difficile d'imaginer l'état de crise économique dans laquelle nous allions nous trouver ce printemps. Il y a deux semaines, le G20 convenait de réguler certains excès du capitalisme, d'encadrer des agences de notation, de publier une liste noire des paradis fiscaux. Depuis quelques semaines, l'idée de régulation politique s'est imposée avec la multiplication de pertes d'emplois, des faillites appréhendées de grandes entreprises et les extravagances en tout genre dans le milieu des affaires. Il y a donc cette idée d'intervention qui revient un peu à la surface avec l'intervention des États occidentaux dans l'économie. Alors, mon propos porte sur la régulation des médias qu'il faut concevoir en lien avec l'éthique. On pourrait imaginer un continuum avec, à une extrémité, des codes de déontologie sans mécanisme d'application et, à l'autre extrémité, une régulation politique qui suppose donc des lois, des règlements et des sanctions. Et entre les deux extrémités, la diversité des positions d'adhésion ou au contraire de résistance aux règles éthiques, résistance qui appellerait donc une régulation étatique. Je crois donc qu'il faut concevoir l'éthique des médias en lien avec la régulation politique du milieu, l'un sans l'autre étant inefficace comme la situation actuelle au Canada le démontre. Alors, mon propos porte sur cette idée de régulation politique, seule en mesure d'imposer des équilibres dans le monde des médias, des équilibres entre les exigences économiques d'une part et les exigences de nature politique et sociale d'autre part. Alors, avant de continuer, je voudrais, étant donné qu'il y a des anglophones dans la salle, faire une petite précision. La régulation, en traduction, c'est un faux ami. Hein? Regulation is not régulation. Doesn't mean the same thing. Alors, la régulation, en français, fait référence à l'intervention de l'État, the state intervention. So, alors, les gens qui vont faire de la petite traduction, là, je vous le signale, quand je dis régulation, vous pensez plutôt intervention de l'État. Alors qu'en anglais, quand on utilise le mot regulation, on fait davantage référence à de la réglementation, autrement dit, une réglementation après la législation ou l'établissement de règles. Donc, là, il y a une distinction ici qui est à faire. L'idée d'équilibre est centrale à la notion d'économie éthique, telle que définie par Maréchal. La promotion et la diffusion dans la vie économique de règles du jeu, de principes et de normes éthiques universellement acceptables, susceptibles de favoriser, à moyen terme, la réconciliation de l'économique, du social, de l'écologique et du culturel. Alors, ma communication est organisée en trois temps. Alors, je traiterai d'abord de la nécessité de réguler les médias et je vais donc répondre à la question « Pourquoi réguler? » et je vais répondre « À cause des caractéristiques particulières de l'information en démocratie. » Ensuite, l'idée de régulation dans les médias a une longue histoire. Je vais donc traiter de la persistance de l'idée de régulation pour les médias au long du 20e siècle et depuis le début du 21e siècle. Et enfin, je vais présenter les résistances à la régulation dans le milieu journalistique, peut-être un petit peu celle des journalistes, mais davantage celle des patrons. Alors, pourquoi réguler? Alors, vous avez peut-être un peu compris que la question de l'éthique des médias dont je vais traiter, c'est surtout l'éthique entrepreneuriale et non pas l'éthique journalistique. Alors, pourquoi réguler le monde des médias, en particulier les transactions financières? L'information de nature sociopolitique et culturelle n'est pas une marchandise comme les autres. On a avec raison le sentiment qu'elle facilite les processus démocratiques, qu'elle permet le bon fonctionnement du système partisan. On peut résumer l'importance de l'information politique en deux volets. Le premier a trait à la naissance de la démocratie et met en évidence le rôle d'espace public qu'ont joué les moyens de communication dans la naissance de la démocratie représentative du 17e et du 18e siècle. Les médias aident les citoyens à se faire une opinion éclairée des affaires de la cité et la légitimité du vote se fonde sur l'opinion du peuple, l'opinion que le peuple est informé et éclairé. Le vote n'a de sens, en effet, que si les citoyens sont capables de comprendre le monde qui les entoure. Alors, voilà pourquoi les attentes envers les médias, quand elles sont pensées en fonction de la démocratie, sont si élevées. Ah, la référence à l'espace public s'inscrit dans une volonté de faire des médias un lieu utile pour la démocratie. Évidemment, le modèle de l'espace public est passablement défectueux, puisqu'il n'est jamais aussi transparent, rationnel et égalitaire que le laisse supposer le modèle habermasien. Il représente plutôt un horizon, une utopie vers laquelle on tend. Les tribunaux ont par ailleurs reconnu le lien entre une information politique transparente et la capacité des citoyens de voter de manière éclairée. Dans plusieurs arrêts, comme ceux de Lehman et Harper, les juges ont préféré un débat de qualité avec des restrictions à la liberté d'expression à un débat sans balises. On a donc privilégié des mécanismes permettant de faire valoir un meilleur équilibre des points de vue aux dépens d'une liberté tous azimuts, ouvrant la voie à un contrôle effectif de l'information. Certaines situations de liberté totale s'apparentent en effet à de la jungle où le plus fort l'emporte, ce qui est fort problématique en démocratie. Il faut se rappeler le mot de Lacordaire, entre le faible et le fort, c'est la règle qui protège et la liberté qui opprime. Le deuxième volet met la lumière sur l'information comme nourriture essentielle au bon fonctionnement des processus institutionnels, administratifs, parlementaires, entre autres. L'information est un ingrédient qui fait fonctionner des processus démocratiques. Il permet la discussion, mais aussi la prise de décision. Il faut donc nourrir les processus politiques à toutes les étapes de ces processus et dans tous les types d'organisations, commissions parlementaires, commissions itinérantes, organismes de concertation comme la CSST, organismes quasi-judiciaires, tribunaux administratifs, etc. Alors, les deux volets se trouvent dans le modèle de gouvernement représentatif de Bernard Manin et correspondent aussi à l'immense popularité des théories de la délibération en sciences sociales. Je vais maintenant m'attacher à l'idée de persistance de l'idée de régulation des médias au 20e et au 21e siècle. Réguler les médias et les transactions financières liées aux médias est une idée persistante dans les rapports gouvernementaux depuis les tout débuts de la radiodiffusion. L'histoire de cette radiodiffusion est en effet jalonnée d'études qui font état de cette nécessité de réguler les transactions financières. Alors, je vais m'attarder à quelques idées forces de ces rapports en insistant sur ceux publiés depuis le début du 21e siècle. Alors, l'idée que le marché seul ne peut pas réguler de manière adéquate le secteur des médias s'appuie sur deux constatations. La prévalence des règles de marché a entraîné au Canada une concentration de la presse beaucoup supérieure à celle que l'on retrouve dans les démocraties occidentales. Et on peut aussi dire qu'au Canada, il n'y a pas de régulation qui permet d'évaluer l'intérêt public en jeu dans les transactions financières des médias, pas de mécanisme effectif et efficace avec un débat ouvert et transparent. Alors, tous les groupes, comités et commissions qui se sont intéressés au fonctionnement du monde médiatique, que ce soit les journaux, la radiodiffusion ou encore Radio-Canada, ont tenté en vain de tirer la sonnette d'alarme. Alors là, j'ai une longue liste de rapports qui traitent de la concentration de la presse de manière plus ou moins focussée et qui ont tous des rapports qui ont tous déploré que l'intérêt public n'était pas pris en considération dans les transactions et que très très souvent on demandait des mécanismes d'intervention. Je suis un peu embêtée. Dans mon texte, j'en ai mis, mais là, je sais que j'ai pas le temps de tout réviser. La Fédération professionnelle des journalistes du Québec a à plusieurs reprises insisté pour que des mécanismes visant l'intérêt public soient pris en compte. Le rapport Kent, le rapport Davy, le rapport Junot en 96 déplorait la marchandisation de l'information à Radio-Canada. Il y a vraiment de nombreux rapports. Bon, j'ai la Commission de la culture Assemblée nationale en 2001. En 2003, le comité Saint-Jean, comité conseil sur la qualité et la diversité de l'information. Je souligne en particulier que le rapport Kent en 1980 suggérait une série de mesures correctrices destinées à freiner la concentration de la presse, le renforcement des lois sur la concurrence et les coalitions, l'abolition des chaînes, l'interdiction de la propriété mixte, l'aide aux journaux en difficulté et la création d'un organisme de réglementation ayant trois fonctions. Assurer un certain contrôle sur les contenus, obliger la mise en place de conseils de presse et examiner les transactions financières. Alors, évidemment, en 2003, un comité conseil sur la qualité et la diversité de l'information mandaté par le gouvernement du Québec exigeait également une sorte d'observatoire des médias. Et en 2003, il y a aussi eu la publication du rapport Lincoln. Mieux connu sous le nom du rapport, le rapport Lincoln, pour lequel mon collègue Marc Raboy était expert conseil. Alors, le bilan de la concentration dressée faisait état de l'accroissement sans fin de la concentration au point où, au début du 21e siècle, les cinq plus grands propriétaires de stations de télévision conventionnelles détenaient 68 % du marché contre 48 % en 1990. Alors, le rapport Fraser, la FPJQ devant, donc la Fédération professionnelle des journalistes du Québec devant le CRTC. Le rapport Bacon aussi en 2006 qui a examiné de manière plus spécifique, et ça, je vais en parler davantage, les mécanismes d'étude des transactions financières dans le monde des médias. Alors, le rapport Bacon fait référence à des positions qui sont excessivement dominantes en matière de concentration de la presse. En fait, ce qu'on dit, alors là, quelques exemples, je ne veux pas revenir très, très longtemps sur les exemples de concentration, il y en a vraiment beaucoup, hein, 100 % du Montréal anglophone, Canouest qui est majoritaire à Calgary et à Edmonton, Québécois, la station la plus écoutée au Québec, le journal le plus lu à Montréal et Québec, les magazines, la cabine distribution, le commerce, la musique, l'imprimerie, etc. En fait, dans un document où on retrouve le nombre de lecteurs par journal, on peut compter qu'à Montréal, c'est près de 6 lecteurs sur 10 qui s'abreuvent aux journaux payants et non payants de la même entreprise. Donc, c'est vraiment beaucoup. Alors, les problèmes liés à la concentration, c'est évidemment que lorsqu'un joueur occupe tellement d'espace dans un marché, il en contrôle pratiquement les règles, et ce, sans obligation de nature éthique et sans obligation de rendre des comptes. Lorsque des conflits d'intérêts sont soulevés, les mécanismes permettant de les identifier sont assez émasculés. Alors, je suis certaine que le président du Conseil de presse, M. Corriveau, en aura long à dire là-dessus. La dominance du marché renvoie d'une part à leur capacité de contrôle du marché publicitaire et d'autre part à une série de rapports de forces inégaux. Les radiodiffuseurs avec les producteurs indépendants, les entreprises de distribution qui possèdent une station de télévision avec des stations concurrentes et les propriétaires avec leurs journalistes qui voient leurs possibilités d'emploi se restreindre. Alors, il y a véritablement, il y a eu des règles établies en 2008 au transfert de propriété par le CRTC. Je vais passer assez rapidement là-dessus puisque ce n'est pas l'objet comme tel. Mais en réalité, il faut savoir que les audiences publiques portaient sur la diversité des voix et que la conclusion, c'est que finalement, le CRTC a, en quelque sorte, entériné le statu quo puisque les nouvelles règles ne permettent pas de modifier la situation actuelle. Ce qu'on constate, c'est qu'on va entériner le code d'indépendance journalistique du Conseil canadien, du Conseil des normes de la publicité. C'est donc de l'auto-réglementation. On va donc réaliser que un des aspects qui causait beaucoup de problèmes dans la propriété mixte, c'était la cueillette d'informations pour des médias croisés et que dorénavant, ceci n'est plus régulé, ce qui fait qu'il est possible pour une salle de presse et un journal d'utiliser les mêmes personnes et les mêmes processus pour cueillir les informations. Et le CRTC a fixé à 45 % le maximum des parts dans les marchés télévisuels, ce qui est vraiment excessivement élevé, d'où l'idée que du rapport Bacon qu'au Canada, on a des positions excessivement dominantes en matière de concentration de la presse. Alors, l'autre élément que je veux souligner, c'est qu'il n'y a pas de tribune en matière de régulation des transactions pour évaluer l'intérêt public lors de transactions financières, un élément qui a été bien expliqué par le rapport Bacon, parce que, en fait, on a essayé de réfléchir à la manière dont l'étude des transactions se faisait. On est donc allé voir du côté du Bureau de la concurrence et du côté du CRTC. Pour le Bureau de la concurrence, ce qu'il faut bien voir, c'est que pour évaluer si un marché est concurrentiel ou non, le Bureau analyse la concurrence dans une industrie en évaluant les données de la plus petite entité géographique pour son analyse des marchés. Or, cette unité n'a aucun sens dans le domaine des médias où l'échelle régionale et même canadienne doit être prise en compte. Donc, l'information politique est rarement un produit local. Donc, ce qu'on réalise, c'est que les outils d'analyse ne sont pas aussi performants qu'on peut le croire pour l'industrie des médias, ce qui empêche d'évaluer la concurrence réelle. Quant au CRTC, son mandat met l'accent sur la culture et l'économie et non pas sur les nouvelles et l'information. Il cherche à maintenir les conditions d'une industrie de la radio solide et bien financée, à assurer une belle visibilité aux artistes canadiens et à garantir le maintien d'une présence française en radio. Le CRTC se préoccupe de la viabilité financière des radiodiffuseurs canadiens et de l'offre de contenu canadien au plan musical et linguistique. Cependant, l'absence de politique touchant les émissions de nouvelles a entraîné une diminution des émissions d'actualité particulièrement remarquable à la radio. Il y a donc l'idée que les transactions dans l'industrie des médias, elles se font, elles sont d'intérêt public, mais elles ne sont pas régulées comme telles. La question de l'intérêt public n'est pas véritablement analysée. Et ce que les rapports demandent à répétition, ce sont des mécanismes institutionnels permettant de réfléchir à la question de l'intérêt public. Alors, ce qui pourrait être fait au CRTC, c'est certainement d'établir des mécanismes d'évaluation des projets de fusion. Et on pourrait aussi donner un peu plus de dents au CRTC en lui permettant d'intervenir auprès d'un diffuseur à n'importe quel moment et après une plainte, et non pas à la toute fin, parce que présentement, les mécanismes ne prévoient pas des interventions très spécifiques là, entre les renouvellements de licence, même si je suis bien consciente que le CRTC peut intervenir et peut approcher les entreprises. Il n'y a pas d'intervention du type sanction qui est faite. Alors, si on pouvait, ce serait quand même intéressant de pouvoir le faire. Et si on offre une capacité de sanctionner plus grande, la diversité des sanctions pourrait être aussi intéressante, du genre le retrait des ondes durant 24 heures ou bien des sanctions de nature pécuniaire. Le cas de la station de radio Choix FM dont le permis n'a pas été renouvelé en 2004 et qui a continué à diffuser malgré tout, jusqu'à ce que la Cour suprême refuse de se prononcer sur le dossier et que la station soit vendue. Alors, ce cas-là illustre un peu l'état de schizophrénie avancée dans laquelle se trouve notre système de régulation des médias, si tant est qu'on puisse parler de régulation. Alors, je passe à la dernière partie de ma présentation, les résistances à la régulation dans le monde journalistique, dans le monde médiatique. Alors, l'idée de réguler les médias est presque toujours reçue de manière négative dans le milieu médiatique où un certain libertarisme prévaut. Alors, du côté des journalistes, hein, il n'y a pas de statut professionnel au sens d'un ordre professionnel, pas de carte de presse reconnue juridiquement, pas de formation spécifique. Il n'y a pas non plus de mécanisme d'application du code de déontologie de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Alors, le modèle, par défaut, semble être un petit peu la liberté, comme si un Milton Friedman du journalisme avait lourdement imprimé sa marque sur les médias nord-américains. Par ailleurs, je ne veux pas sursimplifier cette question-là, parce qu'il y a un courant qui est minoritaire, mais actif au Québec, souvent regroupé autour de la FPJQ, qui travaille à l'instauration d'une législation ou d'une réglementation minimaliste mais sérieuse de certaines questions, comme par exemple les caméras dans les palais de justice ou la protection des sources. Alors voilà, Milton Friedman qui est arrivé. Donc, des balises législatives et réglementaires pourraient-elles être établies avec le milieu? Ne vaudrait-il pas mieux réfléchir avec les journalistes pour établir des normes qui seraient discutées entre les élus et les principaux intéressés plutôt que se faire imposer des normes par les tribunaux? Parce que c'est présentement ce qui survient. Les tribunaux vont imposer des règles auxquelles réagissent assez négativement les journalistes. Alors, évidemment, les tribunaux, la conciliation des intérêts par les tribunaux n'est pas toujours à l'avantage de la perspective journalistique et il y a quand même des problèmes spécifiques que ça pose aujourd'hui. Les blogs et les médias sociaux vont s'imposer, donc les règles se trouvent être un peu plus floues, en fait, pour le grand public, même si pour les journalistes, ces règles-là restent extrêmement importantes. Et en période de crise économique dans les médias traditionnels, il n'est pas évident que les patrons vont trouver des solutions qui vont mettre en valeur les caractéristiques des vrais journalistes, ceux qui font de la vérification. Merci. Et ceux qui ont un intérêt particulier pour les questions éthiques. Donc, si un fort courant de journalistes adopte une position assez libertaire malgré tout, que dire des patrons de presse dont les intérêts sont éloignés de l'intérêt public? Encore ici, je ne veux pas sursimplifier, car la propriété privée des médias se présente de manière extrêmement variée d'un média à l'autre. Il y a une variété de situations et la conciliation des intérêts économiques et journalistiques est plus heureuse dans certains médias que dans d'autres. Il me paraît clair, cependant, que plus un patron de presse est allergique à l'éthique, plus il reçoit de manière négative l'idée de régulation. Malgré la crise économique, certains patrons de presse vont continuer à vanter les mérites de la liberté entrepreneuriale, ce qui est fort dérangeant. C'est qu'on continue à réclamer des aides financières tout en... Oui, ça, c'était mon exemple de patron allergique à la fois... Le premier exemple, c'est à l'éthique, au deuxième, à l'idée de régulation. Alors, ce qu'on entend, c'est qu'on va vanter la liberté de la presse tout en faisant fi des conditions de licence de radiodiffusion. Et donc, on va réclamer des aides financières de l'État tout en vantant la liberté entrepreneuriale. Donc, on voit ainsi des individus réclamer donc la pleine liberté dans l'organisation de leurs entreprises, faire fi des conditions d'obtention de leur licence de radiodiffusion et finir par obtenir par voie réglementaire exactement ce qu'ils demandaient en termes d'absence de régulation. Je pense en particulier à cette cueillette d'informations dans la propriété croisée. Et donc, après avoir violé durant plusieurs années des principes éthiques journalistiques de base, les avis du CRTC, les décisions du Conseil de presse, voire les décisions des tribunaux administratifs. Alors, quand ces mêmes patrons de presse ont profité des aides de l'État, je pense à la Caisse de dépôt, on a la désagréable impression de vivre le pire des deux mondes, le monde capitaliste sous la tutelle des entreprises et le monde social-démocrate dans lequel l'État intervient dans l'économie, le tout sans lien l'un avec l'autre. Pourtant, des aides financières de l'État devraient se traduire par un certain contrôle de l'État, en plus du fait que le type de produit en cause, l'information sociopolitique et culturelle, n'est pas une marchandise comme les autres. Alors, en conclusion, l'idée de réguler les médias est une constante de l'histoire de la radiodiffusion canadienne pour de bonnes raisons, c'est-à-dire parce que les principes de base du capitalisme ne permettent pas de garantir la liberté de la presse, la diversité des voix, l'absence de conflits d'intérêts, la liberté du marché publicitaire et la liberté du marché de l'emploi. Le marché à son meilleur, entre guillemets, c'est-à-dire non modulé par des principes éthiques, journalistique, encourage le plagiat et les nouvelles repiquées, néglige les régions, privilégie des techniciens et de vrais journalistes et protège ses commanditaires. À la lumière de ce qui précède, je réitère l'idée que l'éthique des médias, l'éthique entrepreneuriale en particulier, n'a de sens que si elle est accompagnée par une solide régulation. La dynamique qui s'instaurerait entre l'une et l'autre ne pourrait qu'améliorer la défense de l'intérêt public. Car enfin, s'il est possible de traiter d'éthique avec un certain nombre d'entreprises privées et avec des entreprises publiques, il n'en va pas de même avec d'autres entreprises aux mains de patrons de presse fermement convaincus que l'information constitue une marchandise comme les autres. Alors, c'est en faisant valoir et en rappelant le statut des informations sociopolitiques et culturelles dans la démocratie qu'apparaîtront aux yeux des politiciens et des citoyens les abus de pouvoir fréquents dans le monde médiatique. Merci.
J'ai une question, c'est que il me semble qu'il y a une tension entre les deux buts, un de protéger la culture et aussi de éliminer la concentration de la presse. Et il y a des gens qui disent que le problème, c'est pas qu'il n'y a pas assez de régulation, mais trop de régulation, c'est-à-dire que les investissements étrangers sont pas permis ici au Canada. Alors, est-ce que vous avez une réplique?
Trop de régulation, ça dépend. En réalité, si vous êtes pour l'abolition des réglementations en termes de propriété étrangère, puisque c'est ce que vous avez dit, effectivement, pour les personnes qui ont l'impression que le marché devrait être totalement libre, et y compris en termes de protection nationale pour les entreprises de presse, évidemment, vous allez trouver qu'il y en a trop. Alors là, c'est sûr que ce n'est pas dans l'absolu qu'on décide qu'il y en a trop ou pas assez, c'est aussi en fonction de son propre cadre d'analyse. Par ailleurs, lorsqu'on fait référence à l'information comme nourriture importante pour des processus sociopolitiques, on peut peut-être avoir envie que cette information reste un peu sous la tutelle des nationaux. Alors, c'est un point de vue, on peut adopter une position totalement différente et dire que l'information devrait être totalement libre, auquel cas, bon, de vendre un journal à des Chinois, un autre à des Français, un troisième à des Américains, ne ferait strictement aucune différence. Évidemment, ce sont des points de vue différents, mais qui portent aussi avec des postulats différents.
Oui, mais simplement parce que l'exemple de Kanye West, avant que les Aspers en acheté, c'était Conrad Black qui a construit ce grand édifice national. Et lui a toujours dit que Kanye West est une conséquence du fait que les investissements étrangers sont pas permis ici. Alors, si on veut éliminer des choses comme Kanye West, la solution très simple, c'est de laisser investir les Américains ou les Français ou n'importe qui.
Bah, écoutez, Conrad Black est en prison, il y a son point de vue.
Je ne sais pas quoi vous dire.
Conrad Black, pour moi, ce n'est pas vraiment un modèle en matière de gestion de médias. Et lorsque Kanye West est arrivé, ce n'était pas non plus l'idéal, avec des points de vue opposés, puis des éditoriaux imposés dans plusieurs journaux. Et vous vous souvenez, en 2001, là, cette espèce de réflexe que les journalistes ont eu, en particulier ceux de la Gazette, de se dire vraiment des éditoriaux imposés par le patron, vraiment. Non, c'est pas ça qu'on appelle la liberté journalistique. Donc, évidemment, si vous partez d'un point de vue libertaire, évidemment, vous avez dû être très malheureux de m'entendre. Ça, c'est tout ce que je peux dire. Et Kanye West, effectivement, c'est effectivement parce que M. Black voulait être Lord à Londres et qu'il a dû se débarrasser de ses médias. Mais si ça n'avait pas été Kanye West, ça aurait pu être une autre. Et le fait qu'aujourd'hui, Kanye West a des problèmes financiers, je pense qu'on peut dire aussi que l'entreprise n'est pas la seule. Il y a quand même un bon nombre d'entreprises médiatiques qui ont des difficultés financières.
Oui, Anne-Marie, votre rappel historique est fort intéressant. Oh, excusez. D'accord, Guillaume Yo, du Conseil de presse du Québec. Le rappel historique est très intéressant sur les multiples rapports qui ont exigé des réglementations. Ça date de très, très longtemps. Plusieurs auteurs l'ont fait, plusieurs arguments sont invoqués. Quelles seraient, en 2009, les conditions politiques, les conditions socio et politiques pour qu'il y ait des interventions? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'État bouge davantage? Qu'est-ce qu'il faut créer comme situation?
Je suis très, très embêtée. Je veux pas. Je trouve que les demandes ont été faites à répétition. Présentement, les gouvernements ne sont pas dans une situation où enfin, on n'a pas dans les deux gouvernements au Québec et au Canada des individus qui croient beaucoup dans l'interventionnisme économique. Ils le font pour des raisons extrêmement conjoncturelles. Ce n'est pas leur idéologie, ni à Québec, ni à Ottawa présentement. Donc, Guy, j'aurais beaucoup de difficultés à répondre à ta question. Ce n'est pas par manque de volonté, peut-être, effectivement, si on changeait de gouvernement, mais c'est un long détour pour arriver à l'intervention dans les transactions financières, d'autant plus que ça ne correspond pas véritablement à l'ère du temps. Hein, cette régulation très, très directe, on a encore un marché qui fonctionne et je pense qu'après les soubresauts qu'on connaît présentement, le marché reprendra de plus belle, finalement. Donc, on n'est pas, on verra en tout cas l'ampleur de la crise et l'ampleur des conséquences. Donc, je vais te faire une réponse décevante.